Victor, c'est un 8 novembre, figure-toi qu'on a perdu toute trace d'Alfred Katz. Et c'est ce jour anniversaire que nous recouvrons notre liberté.
Mais dis-moi Alex, qui est Alfred Katz au juste ?
Victor, ils n'ont pas volé le téléphone.
Oui, l'interview. Et puis Marc a dû vous prévenir.
J'ai aucune nouvelle de votre patron depuis ma libération.
La seule question civilisée que vous pouvez me poser, Solveig, c'est de retour au port, avec qui baisez-vous ?
Allô Victor ? C'est Alex. Oui, je dois te voir, c'est urgent. Tu feras attention à pas être suivi.
Victor Blainville, Abigail Stern. Nous ne nous connaissons pas. Et je dois vous remettre quelque chose. C'est un journal intime. Celui de Alfred Katz.
Une fois de plus, il y aura eu l'espoir, l'enthousiasme, la liberté. Il ne peut rien se passer de bon en Prague.
Accident ou assassinat, on ne sait toujours pas. Depuis longtemps, il avait attiré l'attention des services.
Paul Lourset, j'aimerais faire un sujet sur 1938. Une année terrible.
Je n'arrive pas encore à y croire. J'ai osé aborder André Breton.
Venez nous aider à préparer notre exposition internationale. Demain, 18h.
Et toi, tu as l'air moins bête que toute l'engeance qui est là ce soir. Offre-moi une cigarette, camarade.
Je m'apprêtais à sortir.
Je m'appelle Mila.
Nous cheminons entourés de fantômes au front troué de Jean-François Villard. Adaptation radiophonique, Maya Bocquet. Deuxième épisode.
Ces mannequins me font bien rigoler. Tu veux que je te raconte quelque chose ?
Mmh.
Une confidence à ne pas répéter. Un de mes copains artistes était bien ennuyé par cette idée de Breton, vraiment pas sa meilleure. Détourner des mannequins.
Qui ?
Pas de nom. Il a conçu le projet de tricher. De substituer au mannequin, au dernier moment, un de ses modèles. Une vraie fille. Elle aurait été vêtue d'une longue cape, le visage dissimulé par un capuchon. Dessous, bien sûr, elle aurait été nue. Mm-hmm. Ce qui aurait été facile à vérifier. Tu imagines la réaction du beau monde en allant y voir de plus près ?
Et je suppose que tu étais la fille pressentie.
Ah, j'étais d'accord. Ça me plaisait même beaucoup. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il me faudrait rester tout le temps immobile. Impossible pour moi. Je ne peux pas. Mais enfin, je regrette quand même d'avoir cédé la place.
Katz ne donne guère de renseignements sur les premiers moments de son trajet avec Mila. Ils ne se sont pas attardés aux alentours de la galerie, terrain ennemi. Ils marchent soi-disant au hasard. Mon avis est qu'ils suivent l'axe Saint-Honoré et approchent des Halles.
N'as-tu pas faim, Mila ? Ici, à l'angle, ils font une excellente soupe à l'oignon.
Faim ? Pas tellement. Je préfère marcher.
Comme tu voudras.
Tu pourrais m'en offrir une.
Tiens.
Et si nous allions voir la tour Saint-Jacques ?
Excellente idée. Donne-moi ton bras.
Cette nuit, je rejoins Katz et Mila. Je me dirige vers la tour Saint-Jacques. Le square est désert. Qu'avait-il bien pu voir et comment ? En 1938, le square n'était pas si bien aménagé. Il n'existait même pas en tant que tel. Ce n'était qu'un terrain vague, un lieu extrêmement indécis. Je me souviens d'une photo nocturne de Brassailles, la tour chancelante, comme le suggérait Breton dans son récit « L'amour fou », garnie d'échafaudages. Bien distincte, mais enserrée dans une sorte de toile d'araignée. C'est ainsi que l'avait vu Katz et Mila. Lui intimidée, elle déjà presque séduite. Je reste quelques secondes, tentant de les voir, quand je suis dérangé.
Les échafaudages qui entouraient la tour Saint-Jacques, c'est comme à Prague.
Oui.
Les monuments s'effritent là-bas, les statues tombent du haut des corniches. Il y a des blessés, des morts parfois. Alors les responsables disent qu'il faut protéger les citoyens, restaurer les édifices, prendre le temps qu'il faut. Ils construisent des échafaudages. Ils appellent cela la réserve urbaine. Alors tout est protégé, tellement qu'on n'y voit plus rien. Cette tour est un peu ainsi.
Il n'y a plus d'échafaudage.
Ni de vieux quartiers autour. C'était le centre vif de Paris. Comment s'appelait-il ?
La boucherie. Comment saviez-vous que je pensais à cette photo de Brassailles ?
Dites-moi plutôt ce que vous faites ici, cette nuit, si vous voulez bien.
Il y a ce carnet que je lis. Tout se passe en 1938. Un journal intime. Celui d'Alfred Katz. Depuis quelques heures, il y a Mila. Ils viennent juste de tomber amoureux.
Et ils arrivent ici ?
Je suis venu les rejoindre.
Et que font-ils ?
Il est évident qu'il la frôle de près. Tout hésitant, tout maladroit qu'il est. Il répugne au code convenu de l'amourette. Il veut de l'éclat, du grand genre. J'aimais Mila.
J'aimais Mila.
Il n'avait fallu pour cela,
que le temps d'une rue.
Nous étions au pied de la tour. Elle me regarda assez fixement,
d'une manière insistante,
comme si elle me jaugeait.
À quoi ressemble-t-elle ?
Le carnet ne l'indique pas.
Et après, que font-ils ?
Ils marchent, bras dessous, vers la conciergerie de l'autre côté de la Seine.
C'est par là ?
Par là ?
Vous souhaiteriez peut-être être seul avec eux ? Vous êtes venu à leur rencontre, je ne veux pas être de trop.
Vous l'êtes ? Tant mieux. Allons-y.
Vous êtes bien certain ?
Je prends le risque.
Alors je vous suis.
À droite, le Châtelet, ses tours, ses geôles, sa morgue. La mort encore. Plusieurs massacres ont marqué l'endroit, ceux de septembre 1792. Massacre aussi, aux mêmes heures, à la conciergerie en face.
Visite guidée, passage en revue de vos fantômes préférés.
Les histoires suintent de partout. On n'y pense plus, on les ignore. Moi, dans le pire des cas, elle m'absorbe. Lorsque je ne fais pas trop mal, elle me guide.
C'est tout pour cette place ?
On peut garder une certaine unité thématique. C'est au théâtre Sarah Bernhardt qu'a été fêté en 1946 le retour d'Antonin Artaud.
Il venait d'où ?
De l'hôpital psychiatrique de Rodez. Pour l'occasion, Breton fit un très beau discours. Venez, accrochez-vous.
Il traverse le pont ?
Oui, il traverse le pont au change, passe devant la conciergerie, au pied de la tour de l'horloge.
Que se passe-t-il ici ?
J'ai toujours ressenti un malaise en passant au bas de cette horloge. Un malaise jubilant. L'impression de retrouver, à cet endroit précis, la sensation d'un rêve oublié.
Ici ?
Il y a deux ou trois autres endroits dans Paris qui me troublent tout autant que le bas de cette horloge, je ne sais pas pourquoi.
Lesquels ?
Je vous dirai plus tard. Si nous devenons un peu plus intimes.
Jusqu'ici, vous me plaisez bien. On continue ?
On continue. Il se dirige vers la place Dauphine, au bout de l'île.
Mila se moque de moi. Cette idée que j'ai de la mener place Dauphine, n'est-ce pas du plagiat ? Une manière de copier André Breton ? Il ne s'agit pas de la prendre pour une sotte.
Moi aussi, et peut-être avant toi, Gélinadja. J'ai bien compris tout ce qui peut se tramer sur cette place. Les petites magies à provoquer pour peu qu'on sache y faire. Nadja connaissait les trucs pour épater les hommes. J'aimerais que tu m'épates moi, Mila. En oubliant ce qu'ont écrit sur l'amour fou tous tes copains que tu admires. Invente-moi une histoire d'amour rien que pour moi, petit Katz.
Mila a raison. Ces petits jeux sont très faciles. Ils marchent toujours et plaisent aux hommes. Imaginons que je vous dise qu'une fenêtre va s'éclairer, en rouge, par exemple, dans quelques secondes. C'est ce qu'a fait Nadja qui a bluffé Breton. Si je vous servais un tel numéro, vous me prendriez pour une pâle imitatrice, non ?
Faites comme vous voulez.
Alors faites-moi plaisir.
Solveig prend ma main, la glisse sous sa robe, la guide jusqu'à son sexe. Elle porte des jarretelles assez simples, sans plus. Son sexe est sec. Elle m'invite à m'y enfoncer. Sa toison est joliment clairsemée. Elle soulève ses reins pour que je puisse la branler plus à l'aise.
Font-ils ensuite ?
Mila s'éloigne. Esquisse un pas de danse. Les becs de gaz ne donnent qu'une pauvre lumière verdâtre. Mila disparaît dans la nuit. Sans doute est-ce une farce. Un instant, Katz croit qu'elle ne réapparaîtra pas. Il a été trop décevant, il attend. Une petite lueur clignote au loin vers le palais de justice. Elle s'éteint, puis se rallume tout près de lui. Mila a dérobé sa lampe à la galerie. Elle fait avec elle de grandes arabesques, disparaissant ici, revenant là, et l'entraîne vers le pont neuf, rive gauche.
Pas bête, le coup de la lampe.
Ils repartent.
Le pont neuf ?
C'est ça. Nous marchons en promeneur disponible, et je n'ai aucune raison de ne pas caresser les fesses de Solveig. Plus loin, Katz et Mila nous précèdent. Nous sommes bien d'accord. Nous en avons envie. La baise est violente, brève et indiscutable. Chacun pour soi.
Je ne savais où aller, j'étais déconcerté. N'importe qui aurait pris l'initiative de conduire Mila vers un hôtel accueillant, une porte cochère propice. Je n'osais pas, quitte à paraître idiot. Mila s'amusait de mon incertitude. Elle décida de m'embrasser.
Pour le moment, j'habite à l'hôtel. Rugy Le Cœur, chambre numéro 13. Tu peux venir avec moi, petit Katz. C'est à deux rues.
Mila est ma chance.
Rue Gilles Le Cœur. Nous entrons dans l'hôtel. 30 ans auparavant, l'établissement avait une petite réputation. On l'avait surnommé le Beat Hotel. C'était le havre de tous les décavés et routards, beaucoup d'Américains. Burroughs, Gizine, Kerouac, toute la galaxie était passée par là. Le hall est désert. Seul le réceptionniste assure ses heures de service. C'est un jeune type,
une
trentaine d'années.
Une minute, je suis à vous tout de suite. Voilà. Ce n'était qu'un paragraphe à terminer. On perd tellement facilement le fil si on s'arrête.
Écrivain.
Dans cet établissement, tout le monde l'est plus ou moins. Manière de perpétuer les traditions, ou de se consoler. C'est pour une chambre. La 15, comme tout le monde.
Pourquoi la 15 ?
Celle de Burroughs.
La 13, si possible.
Aucun problème. Elle est libre. Pour une nuit ?
Une semaine.
Parfait. Voici les clés. La chambre est au premier.
L'hôtel n'a plus rien du refuge pour paumés aux poches vides, éventuellement géniaux ou convaincus de l'être. C'est un honnête établissement de deuxième catégorie, pour touristes, propre et bien tenu. La chambre numéro 13 ne présente aucun intérêt. Solveig s'installe dans le fauteuil. Je prends une mini-bouteille de whisky dans le mini-frigo.
Plutôt de la bière. Merci. 3h13, chambre 13. Ils ont fait l'amour.
Ce n'est pas écrit.
Ils ont dû forcément terminer la nuit ici.
Je les imagine assez mal.
Vous allez les suivre dans Paris chaque jour, pas à pas, page après page.
Oui, Katz au moins, probablement.
Vous avez retenu la chambre pour une semaine.
J'ai l'intention de me recomposer en prenant tout mon temps.
Et moi ?
Il me paraît tout à fait envisageable de marcher dans Paris avec vous.
C'est très exactement ce dont j'ai envie.
Blainville, encore absent, laissez un message.
Blainville ? Vous êtes là ? Laurent à l'appareil. C'est à propos de cette Solveig. Vous trouvez pas bizarre qu'elle soit dans vos pattes dès votre retour ? Ça vous intéresse peut-être de savoir qui est cette femme. J'ai sa fiche sous les yeux. Son CV est formidable. Comme elle est d'origine bourgeoise, elle souffre un peu dans sa petite enfance. Pas trop. Puis elle devient bonne communiste. Cheftaine même, dans une organisation de jeunesse du parti. Qu'est-ce que je lis encore ? Elle s'enthousiasme pour le printemps de 68. Elle se lie à un musicien de jazz, pas très conformiste. Un dissident. Elle est employée. travailler dans un bureau de poste, elle fait des ménages, puis des traductions. C'était plus gratifiant, les traductions. Mais ça ne l'a pas empêchée de continuer à fréquenter les milieux underground. Elle n'a, à notre connaissance, signé aucune pétition. D'autres renseignements viendront. Je vous tiendrai au courant.
Comme d'hab, Victor.
Comme d'hab.
Le petit rituel du café blanc sec pour réfléchir un peu et avoir un aperçu du tumulte ambiant. Tout en dégustant, je repense à ce Lourset, le réalisateur qui veut faire un sujet sur ma pomme. Avant même d'avoir terminé mon ballon de blanc, je descends au sous-sol et lui téléphone, le convoquant chez moi en début d'après-midi. Lourset sonne à 15h pile. Il est exactement le même que la dernière fois. Aussi massif, aussi cassé, et d'une certaine manière, aussi flou.
Thé ou bourbon ?
Thé, parce que je préfère la vodka, voyez-vous. Alors, vous avez réfléchi ?
J'ai pas compris grand-chose à votre projet.
Ah ben, merci. Dans ma propre tête, il est encore très confus. Oh, non, mais c'est... Mais ce thé est vraiment dégueulasse. Non, passez-moi un peu de votre bourbon, ça sera moins pire. Bon, j'ai été un peu incomplet lors de notre dernier entretien. Primitivement, dès l'annonce de votre libération, j'avais pensé faire un travail avec vous deux, je ne vous le cache pas, en pensant plus particulièrement à Alexandre. Vous, je ne vous connaissais pas. Depuis, Alexandre est mort dans ces conditions tellement incroyables.
Vous connaissiez Alex ?
Bon, on ne peut pas vraiment dire ça, mais comme il a écrit des livres, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à lui.
Donc je n'étais qu'une pièce rapportée dans votre projet ?
J'avais envie d'entendre deux hommes qui ont vécu ensemble une épreuve terrible parler de cette épreuve. Maintenant que vous êtes seul, ça ne peut plus être le même projet.
Je vous sers ?
Volontiers. Venons-en au fait. Pourquoi m'avez-vous convoqué ?
Pourquoi ?
C'est ce carnet. Je peux jeter un coup d'œil ?
J'aurais l'impression d'être indélicat.
Ce garçon est mort.
Raison de plus ?
Alexandre vous a parlé de son père ?
Jamais. Il y a des quantités de choses dont Alex ne m'a pas parlé. Je le remercie.
Vous m'avez demandé de venir. Pourquoi ?
J'aimerais que vous me parliez de vos 20 ans. 1938, c'était comment, Lourset ? Pas les grands événements, les petites choses.
Mais quel genre ?
Les bricoles de tous les jours. Je veux savoir comment vivait Katz. Le prix d'un journal, d'un ticket de métro, tout ce que je peux pas trouver dans ses notes.
Mais il vous contamine donc à ce point ? Oui ? Resservez-moi un peu de votre bourbon. Mes souvenirs sont très partiels et très désordonnés. Un journal devait coûter dans les 50 centimes, le même prix qu'un ballon de rouge au comptoir. Le ticket de métro coûtait 1,10 franc en deuxième classe. Jeune ouvrier, Katz, devait gagner aux alentours de 750 francs par mois. La machine à manivelle fixée sur le ventre des contrôleurs de bus. Le pain qui se vendait au poids, environ 2 francs 80 le kilo. La plupart des gens ne consommaient pas de pain de fantaisie, baguette ou ficelle. Vos gauloises coûtaient 3 francs 50. Il y avait des trams, leurs perches électriques déraillaient souvent. Et plein de petits métiers. Un de mes copains était petit pâtre. Il vendait des fromages et du lait de chèvre. Il avait un troupeau d'une dizaine de bêtes qu'il trayait en pleine rue.
Vous vous habillez comment ?
J'étais mécanicien, je n'avais pas les moyens de trop suivre la mode. J'avais un blouson de toile bleue et une canadienne achetée au marché du carreau du temple. Les jours de congé, je portais un veston. Il était large aux épaules, très long, presque jusqu'aux genoux. Par contre, les pantalons étaient très étroits, avec des revers de près de 10 cm. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'avais ? Ah ben, j'allais danser au bal de la marine. Rina Ketty chantait « J'attendrai ».
Le sachet de shampoing était à 1 franc. Ah, il y avait aussi Yves Laboulange, l'haltérophile forain du boulevard de Clichy. Une curiosité très prisée des touristes. Elle vous ennuie, hein?
Ah non, vraiment pas du tout. Je m'attendais pas à ce que vous puissiez vous souvenir du prix des cigarettes au centime près.
Ma mémoire serait plus facilement prise en défaut sur d'autres périodes. 1938, juste avant la guerre. Ça a marqué ma vie. Alors comment voulez-vous que j'arrête de fumer à mon âge? Quel intérêt?
Ça va?
Oui, les problèmes de santé ne sont jamais des sujets de conversation que pour les imbéciles. Surtout à mon âge, où l'imbécilité devient la pire des maladies. Les derniers examens laissent assez peu de place à l'optimisme. C'est une information que je vous donne, pas un appel à votre compassion.
Ce rendez-vous était idiot, vous ne devriez pas vous déplacer.
Oh, je suis hyperactif. Depuis longtemps, n'hésitez jamais à m'interroger sur le temps, les drames qu'a vécu Katz. C'est sans doute infiniment plus important que cette émission maladroite que je vous ai proposée. Je vous remercie. Oh. Vous m'appelleriez un taxi?
Seul, je reprends la lecture du journal. Le carnet de Katz a quelque chose de rassurant. Je me doute bien que ça ne va pas durer.
Et voilà. Une tâche militante en plus, je m'en passerai bien. Il faut que je me mette désormais à la disposition du camarade Camille, lui-même débordé par son travail au secrétariat. Rien de très exaltant. Il s'agira pour l'essentiel de recopier des projets de motion, des circulaires, d'aider pour quelques traductions. Je parle allemand, j'ai de solides notions de polonais. Je n'ai pas la tête à ça. Je pense à Mila. Breton a bien raison de dire que le travail est un obstacle à l'amour. Enfin, je m'y astreins du mieux que je peux. Blaise, mon secrétaire de cellule, m'a bien expliqué que ce n'était pas par promotion politique qu'on me mettait si directement au service du centre.
La raison est tout autre. C'est parce que le vieux ne décolère pas contre les textes internes mal rédigés et bourrés de fautes. Il y voit du dilettantisme petit bourgeois. Il ne comprend pas que des militants internationalistes n'aient pas la maîtrise de plusieurs langues étrangères.
Le fait est que c'est l'un des griefs fondamentaux de Trotsky à l'encontre de Staline. Il ne s'exprime qu'en mauvais russe. Il ignore totalement les cultures étrangères. Mardi 18 janvier, Blaise m'a convoqué dans un quartier perdu, dans le 15e, bien loin de notre local. Il me reproche d'un ton vif mes relations avec les gens du groupe surréaliste, les Cyrano, comme il les appelle avec mépris.
Dans le meilleur des cas, ces types sont des velléitaires sans consistance. Ton Breton en particulier. Des m'as-tu vu, de parfaits petits bourgeois. Je veux être honnête avec toi. Je suis allé tout à l'heure voir leur fameuse exposition, figure-toi. On m'a regardé de travers. Mais j'ai pris le temps de bien étudier les choses. Je défie n'importe quel ouvrier de trouver un sens à ce bric-à-brac grotesque.
C'est avec des arguments pareils que les stalinistes ont tenté de discréditer Breton.
Les stalinistes ont parfois un très profond sens de la classe ouvrière. Et sans cela, comment aurait-il encore une quelconque influence sur elle? Je te le dis franchement, camarade, ton comportement n'est pas celui d'un véritable bolchevique. On ne peut pas travailler pour le centre, être un bolchevique léniniste et fréquenter les Cyrano. Allez, quittons-nous là. Les révolutionnaires se doivent d'avoir des rapports francs, quitte à ce que les propos soient un peu vifs.
Ce n'était pas la première fois qu'on m'expliquait que la fraternité militante était nécessairement liée à la violence polémique. Au bilan, ce qui m'a le plus irrité dans cette histoire, c'est que Blaise m'ait convoqué dans ce quartier perdu pour m'engueuler, mais en prenant en compte son propre confort personnel. Il m'a planté là, à l'angle de la rue de Vaugirard et de la rue Cambronne, et est retourné sur ses pas. Je l'ai vu entrer sans aucune hésitation dans une petite boutique de bouquiniste. Sa manière était celle d'un familier. Alors je me suis souvenu qu'une des premières fois qu'il avait critiqué mes relations coupables avec les Cyrano, il m'avait dit
« Ne va pas croire que je suis un imbécile de prolo inculte. Mon père n'est qu'un pauvre mutilé de guerre, il gagne sa vie en vendant de vieux livres, mais je les ai presque tous lus. »
C'est l'effondrement de l'Empire, Victor. L'implosion totale, l'abolition de tous nos points de repère, à une vitesse folle, hallucinante. On se contorsionne chaque jour pour écrire des papiers qui vont être ridicules l'heure suivante. La Pologne, la Hongrie, la RDA, même la Tchécoslovaquie sont d'absolus champs de ruines politiques. Et aujourd'hui, ce con de Gorbatchev est en visite officielle au Vatican. Il fait amende honorable. Il avoue que les soviétiques n'ont jamais rien compris à la religion. Après-demain, ce sera la fin d'Yalta. Formidable, à hurler de joie. Sauf que personne ne peut avoir la moindre idée du merdier intégral qui est à la clé. La fin du communisme, c'est la fin de la paix pourrie, bien veule, que nous connaissions sur ce putain de continent. Il va falloir penser, Victor. Ce sera difficile. Et pas seulement pour les journalistes.
Et puis quoi encore ?
Écoute, j'ai couvert des tas d'événements considérables. J'ai vu des dictatures s'installer, au Chili, en Argentine. J'ai fait des reportages à Soweto. J'étais là aussi quand les colonels grecs ont été balayés. Au Portugal, quand le MFA a fait son coup d'État. Je peux te faire l'historique détaillé des combats de toutes les oppositions en Europe de l'Est et du Centre. Reste qu'à Berlin, le 9 novembre, la brèche s'est ouverte sur l'inconnu total. Et pour tout le monde. La déferlante. Personne n'est prêt à l'affronter.
Je rentrais chez moi dans ma pension,
du quai de GMAP vers 19h. Un type avait fait savoir qu'il m'attendait. Il lisait l'UMA dans la salle commune au rez-de-chaussée.
Je m'appelle Félix. Salut.
C'est un gaillard de haute taille, grand membre et geste gauche. La mine plutôt avenante malgré sa mimique embarrassée.
Je m'appelle Félix et je suis comme toi un prolo. Tu travailles dans la presse, moi dans le cinéma. Pas artiste, hein, va pas te faire des idées, machino. C'est comme à l'usine. Tu aimes Mila, et moi aussi je l'aime. Je l'aime autant que toi. J'ai pensé qu'on devait discuter.
Ah.
Je l'ai vue tout à l'heure et elle m'a dit « Voilà, j'ai un amoureux. » Elle me dit toujours tout depuis qu'on est ensemble. Ne va pas croire que c'est elle qui m'envoie. Je sais que vous avez passé la nuit ensemble. Je sais aussi que vous n'avez pas fait l'amour.
D'après Félix, Mila était ainsi. Elle couche avec des tas de types, mais quand quelqu'un lui plaît vraiment, elle hésite longtemps.
Pas par malice, par crainte de faire comme avec les autres. Ses copains pour qui elle pose, ou avec les clients du Sphinx, quand elle manque vraiment de fric.
Du Sphinx ?
Un bordel dans le quartier de Montparnasse, boulevard Edgar Quinet. Un claque de luxe pour un télo et gens de la haute. Les filles sont très bien traitées, rien à redire. Beaucoup sont des occasionnels, comme Mila. C'est quand elle est amoureuse qu'elle hésite à coucher. Voilà pourquoi votre nuit me tracasse. J'étais assez heureux avec Mila, jusqu'à ce matin. Toi, tu débarques, tu bouscules tout. Je me dis qu'elle va peut-être me quitter. Qu'est-ce que je peux faire ? Te casser la gueule ? Te balancer dans le canal ? J'ai déjà corrigé plus d'un type qui rôdait autour de Mila. Seulement là, c'est différent, tu lui plais. Tu lui as plu tout de suite. Elle veut te revoir et... Je crois même qu'elle te veut pour de vrai. Je peux pas te détester, puisqu'elle t'aime. Si on allait prendre un verre. Et puis tu fais rien pour simplifier les choses.
Et pour ces messieurs, ce sera...
Bière. Ouais. Deux bières.
Deux bières.
En plus, t'es trotskiste, on m'a dit. Je suis communiste, moi. Un révolutionnaire. Tous les jours à Joinville, au studio, je travaille avec des camarades exilés qui ont fui le fascisme. Des Allemands, des Polonais, des Italiens. D'autres reviennent d'Espagne. Qui soutient l'Espagne, sinon Staline ? Qui organise la solidarité, la résistance, l'offensive contre Hitler, sinon Staline ? Toi et tes copains, vous êtes du côté des saboteurs, des traîtres, de tous ces salauds qu'on est en train de démasquer qui ne peuvent plus faire autrement que d'avouer leurs crimes. Trotskiste ? Ça se prononce comme je crache.
Oh, 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 ça va pas là ou quoi ?
Ça va, ça va, ça va.
Excusez, tout va bien ?
Hé, je veux pas de ça ici.
C'était pour Mila ou pour Trotsky ?
Pour Trotsky.
Alors, pas de problème. Je pense ce que j'ai dit. Mais je l'ai dit en te provoquant, pour voir comment t'allais réagir. Maintenant, je sais que t'as des convictions. Et ça va pas faciliter les choses.
Allez, patron, les deux bières.
Non, non, je vous sers pas, moi. Je sens que vous allez me causer des ennuis. Allez, dehors.
Il repasse devant le square, sous mes fenêtres. Félix lui dit qu'à cause de lui, il est malheureux aujourd'hui.
Tu sais nager ?
Hein ?
Allez, viens.
Ha, 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 ha.
Selon le carnet, ils rirent beaucoup et se séparèrent plutôt bons amis. Je repense à cet épisode avec Blaise, qui entre comme un familier dans une librairie. Existe-t-elle encore ? Direction le 15e, sur les traces de Katz et Blaise. À l'angle de la rue de Vaugirard et de la rue Cambronne, je retrouve le bouquiniste. Une boutique modeste, étroite, avec des boîtes sur le trottoir. J'entre. L'intérieur est un parfait capharnaüm. Le libraire fait son apparition. C'est un homme petit, sans âge, aux gestes furtifs. Il porte un béret crasseux et une longue blouse grise d'instituteur ou de magasinier. C'est caricatural jusqu'à provoquer le malaise. L'un de ses yeux est blanc avec une paupière morte à demi-close. Il boite et donne l'impression d'être cassé de partout.
Vous êtes Blaise. J'aimerais que vous me parliez d'Alfred Katz.
Soudain, un homme jaillit de l'arrière-boutique. Il s'interpose entre moi et Blaise. Haut de taille, blazer élégant, un sportif hâlé, puant l'eau de toilette. Il se fabrique un sourire et me prend fermement par l'épaule.
J'ai vu votre photo dans le journal. Vous devez pouvoir comprendre qu'il y a des épisodes sur lesquels on ne peut pas revenir à l'infini. Ce Katz appartient au passé. Au passé très lointain. Un passé qui n'intéresse plus personne. Surtout pas mon père. Vous avez vu son état ? Vous imaginez ce qu'il a pu subir ?
Les nazis ? Je ne suis pas venu en ennemi.
Vous n'avez qu'une chose à faire. Nous oublier.
J'ai repéré quelques bouquins intéressants. Je repasserai dans quelques jours.
Je vous demande personnellement de ne plus remettre les pieds ici.
Vu la carrure impressionnante de l'homme, j'obtempère et redescends la rue de Vaugirard pour me rendre rue Gilles-le-Cœur. Lorsque je tombe nez à nez avec Laurent. Il faut croire que c'est dans l'ordre des choses.
Hasard ou coïncidence ?
Vous plaisantez, Victor. Je vous file depuis des heures, alors j'ai estimé courtois de venir vous serrer la main.
Je suis tout le temps suivi.
Ah non, pas tout le temps, pas tous les jours. Comme des petits coups de sonde. C'est un vrai plaisir aussi.
À ce point ?
Oui, je crois que j'avance beaucoup, grâce à vous. Vous ne me ferez pas croire que c'est en toute innocence que vous êtes venu chez ce libraire aussi beau patronyme.
Je comprends pas.
Je vous assure que vous pouvez jouer serré sans pour autant me prendre pour un con.
De quel patronyme vous parlez ?
Faible.
Quoi ?
Vous êtes entré tout à l'heure dans la librairie Faible. C'est écrit sur l'auvent, en grosses lettres.
Faible ?
Je constate donc qu'il y a une librairie Faible, comme il y a une rue Faible dans la liste d'Alex. Curieux, non ? Et vous, vous discutez avec ce vieux monsieur, le bancal, Blaise, Faible. Quel nom bizarre. Puis avec un autre homme. Vous vous connaissiez ? Vous aviez rendez-vous ? Vous pouvez vous taire tant que vous voulez, Victor. Je finirai bien par savoir.
Je m'y suis très mal pris. Je me suis laissé surprendre. J'ai retrouvé l'un des interlocuteurs de Katz et je me suis laissé intimider. Reprenant ma route, encore agacé par ce qui vient de se passer, j'essaye tant bien que mal de déjouer d'éventuels suiveurs. Sachant bien qu'au fond, c'est inutile, puisque Laurent et les siens ont des idées bien précises sur tous mes points de chute. Rue Gilles-le-Cœur, le réceptionniste de l'hôtel tape toujours frénétiquement sur sa machine. À voir les papiers noircis et scotchés qui s'accumulent sur le bureau, ses affaires littéraires avancent bien.
Votre dame a déjà pris la clé.
Madame ? Ah.
Solveig, sans qu'il soit nécessaire de nous donner rendez-vous, nous savons comment nous retrouver. J'entre dans la chambre. Elle est là.
Victor.
Allongée sur le lit.
Je t'attendais. Tu étais avec Kat ?
Presque.
Moins le taf. Alors, quelle nouvelle ?
Jusqu'au 5 février, le carnet ne mentionne que des activités strictement politiques. Réunion de cellules, passage fréquent au local du Parti ouvrier internationaliste, le POI. Mm-hmm. Beaucoup de rendez-vous discrets avec le secrétaire, Camille, dans des cafés de Montparnasse. Les relations avec Blaise sont qualifiées d'un seul mot. Exécrable.
Après.
Le samedi 5 février, Katz note « Hitler vient de s'attribuer le commandement de toutes les forces armées du Reich. Ce régime est chaque jour plus inquiétant. »
Les fantômes de l'histoire ne sont pas si loin. Et Mila,
et Félix.
Mardi 8 février. Mila déménage. Elle fait un repas chez elle. Elle invite ses deux hommes, Katz et Félix. Elle a bien organisé les choses, s'est chargée de toutes les courses, de toute la cuisine. Elle a disposé quelques bouquets. De leur côté, les deux amoureux se sont fait
international du mouvement ouvrier, dont le travail est si profitable à Hitler à chaque pas. C'est ce qu'a écrit Aragon dans Commune. Je l'ai appris par cœur à ton intention.
Aragon.
Parfaitement, Aragon, l'ancien ami des surréalistes. Voilà un bon exemple de lucidité politique.
Un pitre, doublé d'un larbin.
Ça suffit maintenant, passons à la suite. Lapin à la moutarde.
Oh, c'est beau.
C'est beau.
Je suis très émue ce soir. Que vous soyez là, tous les deux. Sincèrement. Donnez-moi vos mains. Une sur chaque sein. Hop. Oui, pressez fort les garçons. Et jurez-moi que vous resterez amis, car je tiens autant à l'un qu'à l'autre.
Nous le jurons, oh Mila.
Et maintenant, champagne.
Ami, mon camarade.
Ami.
Franco, à l'amour. Encore du champagne. Du bon, du frais champagne. Un peu détourné dans les caves du Sfax, il faut
non,
le dire.
Non, pas détourné. Pas volé non plus. Exproprié. Ce champagne, Mila, est à nous, pas aux bourgeois. L'expropriation est un droit sacré. Et d'ailleurs... Dans sa jeunesse, avant 1917, le camarade Staline, dont le vrai nom est Joseph Djougachvili, mais qu'on appelait alors Koba, était un grand expropriateur.
De champagne ?
De banque, petit bourgeois que vous êtes. Il pillait les banques pour le plus grand bien des caisses du parti bolchevique. Le camarade Staline a toujours eu le sens de l'efficacité. Alors, à la révolution mondiale !
À Mila.
À vous, à nous. À cette nuit pas tout à fait ordinaire que nous allons passer, mes amours. Embrassons-nous.
Minuit 30. En pleine nuit, je décide de retourner dans le 15e, devant la librairie faible. Minuit 50. Le rideau de fer est baissé, aucune lumière dans l'immeuble. Qu'il le veuille ou non, le vieux Blaise devra tout me dire. Lui seul, pour le moment, peut me parler de Kat. Minuit 55. Je m'assois sur le trottoir. Je me demande pourquoi le visage et le corps de Blaise ont été cassés. Par qui? Comment? Blaise n'est pas une des clés de l'énigme, il fait partie de l'énigme. Je redoute confusément la simplicité de la solution. 1h10. Je ne cherche rien de précis, je suis à peine en repérage. Je quitte le 15e, j'attrape un taxi pour qu'il me dépose passage du bail dans le 10e. 1h35. Il fait sombre dans le passage et je marche à petits pas. Je cherche une trace du POI, le local où se retrouvaient Katz et Blaise pour leur réunion de cellules. 1h38. Je tâtonne et je ne sens rien venir. D'abord, un coup violent sur la nuque. Puis comme je me retourne, un coup de poing en pleine figure. À partir de là, je ne vois plus rien. Le type sait cogner, son acharnement est précis. Je reçois un direct au plexus qui me plie en deux, puis un coup de pied bien balancé dans les couilles. Je hurle. L'agresseur s'acharne durant d'interminables secondes, puis s'interrompt, miraculeusement. 1h40, je perds connaissance.
Eh ben Victor, qu'est-ce qui t'est arrivé? On te reconnaît pas.
Un café et d'aspirine, s'il te plaît.
Hein?
Je déroge au rituel, j'ai la tête qui explose. Paris est une grande terre d'insécurité, Doris. Surtout la nuit où tous les chats sont gris.
Mon pauvre Victor, t'as pas perdu ton humour. Je te donne ton aspirine. Tiens. Tout part à volo en ce moment. Je ferme à la fin du mois.
Quoi?
Ouais, t'as bien entendu. Je ferme. La capitale, mon petit coco, c'est fini. Je mets la clé sous la porte. Et tiens-toi bien. Tu sais ce qu'il y aura à la place? Un McDo.
Il y a un jukebox dans le rad. Je mets le premier Gainsbourg venu et pars avant qu'il ne s'enclenche.
Oula, ah oui. Un tabassage en règle. Assez féroce.
Très professionnel, si j'en juge par rapport à mon expérience. Dans un coin où vous n'avez, cher Victor, aucune routine. Que cherchez-vous? Qui vous a trouvé? Il y a de quoi s'interroger.
Comment vous savez tout ça?
Passage du bail. J'y étais, j'ai tout vu. Je vous ai accompagné durant tout votre périple. C'est lorsque vous avez pris le taxi que j'ai constaté que je n'étais pas le seul à vous filer. Pourquoi s'intéresse-t-on à vous, Victor?
Qui me suivait?
Je l'ignore. Je n'ai pas pu le voir de près. Ah, je sens poindre votre indignation. J'ai laissé faire, je ne suis pas intervenu. Mais pourquoi je l'aurais fait? Ce garçon n'en voulait pas à votre vie. Votre situation était pénible, certes, mais pas dangereuse. Un règlement de compte entre personnes privées. Aucun tapage public. Pourquoi intervenir dans vos petites affaires? Je vous agace assez en les observant.
Laurent est une tête à claque. Mon premier geste, puis le suivant, sont maladroits, mais très rudes. Je cogne, ça et là, sans aucun savoir-faire, sans grande mesure. C'est excessivement malhonnête de ma part. Laurent n'est d'aucune manière en situation de riposter. Le moindre geste de lui, contre moi, chez moi, lui est interdit. Une fois Laurent dehors, je reprends le carnet. Alfred Katz s'est accablé d'un terrible sentiment de honte. Quelque chose d'irréparable. Comme un crime commis dans un état second. Mila se lève, prépare le petit déjeuner. Elle affectionne un subtil mélange de beaucoup de chicorée avec un peu de café que Katz déteste.
Et ben alors, oh.
Ce n'est pas grave. Il reste du champagne éventé et du lapin à la moutarde. Mila s'amuse sans retenue de la gêne des deux garçons.
N'avons-nous pas passé une nuit formidable?
Ils restent le nez baissé, silencieux, n'osant pas croiser leurs regards. Mila raille ces gaillards redevenus si pudibonds, déjà oubliés de leurs récentes audaces, prêts à renier leur plaisir.
Mais vous n'êtes que des révolutionnaires coincés, pétris de morale bourgeoise.
Il ne s'agit pas de morale, mais de principe.
Quel principe? Pas d'enculade entre copains? Ah, oh, je t'ai vu faire, tu n'as pas eu l'air de trouver ça désagréable.
Ah ça, c'est pas loyal.
Au contraire, moi aussi j'ai des principes.
Elle s'esquive vers la cuisine, revient avec une bouteille de champagne fraîche qu'elle débouche elle-même.
À cause de mes principes à moi, j'ai pris ma décision. S'il est d'accord, je propose qu'on boive ce matin à l'annonce de mon tout prochain mariage avec Alfred Katz. Et je te demande solennellement, Félix, d'être notre témoin.
J'ai dit que j'étais d'accord, écrit Kat dans son carnet. À la capitale, Doris, derrière son comptoir, a déjà commencé son inventaire. Ça sent la faim. Je m'installe à une table. Je n'ai pas le temps de commander mon café blanc sec. L'homme s'installe face à moi. Nous nous connaissons. C'est le fils de Blaise. Toujours aussi grand, athlétique, odorant, offensif.
Depuis que vous êtes passé à la librairie, les flics rôlent. Ils posent beaucoup trop de questions à mon père et au voisinage. Alors mettons les choses au clair, monsieur Victor. Je suis flic, moi aussi. Pas du même grade que ce Laurent et pas dans le même service. Il fait dans la grande stratégie et moi je patauge dans la merde. Et je suis pas certain de détester ça. Mais ôtez-moi d'un doute. Je voudrais pas commettre de méprise. Vous êtes de la maison, vous aussi?
Non. Il en fut soulagé. Il desserre le nœud de sa cravate club, se donne de l'air en déboutonnant son blazer bleu sombre. Il me laisse aussi entrevoir son holster. Inutile de jouer au plus malin, selon lui. Il est à l'origine de quelques-uns de mes petits désagréments physiques. Passage du bail, en particulier.
J'ignore ce que veut ce Laurent. Il est en mission, moi pas. Avec mes moyens, je sais ce que je ne veux pas. Qu'on touche à mon père, par exemple. Pas question qu'on touche à mon papa, d'aucune manière. C'est un très vieux monsieur. Ce que vous faites est très mal. Quoi que vous cherchiez, ce n'est plus d'actualité. Il y a prescription. Laissez mon père en paix.
Sinon?
Sotte question.
Il pose son Smith & Wesson sur la table, ostensiblement. C'est un 38. Il pose tout à côté sa carte professionnelle.
Si tu continues à persécuter le vieux, ce sera moche, regrettable, anonyme. À quoi bon en venir là? Tu fricotes avec ce Laurent, avec ce Katz, je ne sais qui encore. Moi et mon paternel, on est des petits, des minables. Les accidents de travail, les bavures, c'est pour nous. Vous, vous êtes habitué à tirer votre épingle du jeu. Mais cette fois, ça marchera pas comme ça. Ne me pousse pas à la faute, monsieur Victor. Au fond, il n'y a qu'une chose que je veux savoir.
Laquelle ?
Dans quelle équipe joues-tu ? Inutile de chercher à botter en touche. Je sais que tu ne me donneras jamais la réponse.
Ce con a en plus la métaphore sportive.
L'Ourset ?
Oui ?
Ça va ?
Ah, je m'annonce donc de si loin. Quel bruit je dois faire ?
Allez, entrez.
Ah, vous faites porte ouverte ?
Donnez-moi votre manteau et votre écharpe.
Ah, et en plus, vous êtes prévenant.
Alors, que voulez-vous savoir ?
Ce que vous saviez.
Sur quoi ?
Sur la guerre qui venait.
La guerre. Nous ne pensions qu'à ça, à cause du travail, de nos fiancés. Nous n'y croyons pas. Nous avions écouté nos parents qui avaient connu la grande boucherie. Personne n'était assez fou pour vouloir une autre guerre. Si quelqu'un la voulait, Monsieur Hitler ne faisait pas le poids, ni en force, ni en droit.
Mais l'Anschluss, l'annexion des Sudètes, vous en pensiez quoi ?
De la Tchécoslovaquie, rien. Je ne pensais qu'à l'Espagne.
Et vous étiez où ?
À Paris. Comme j'écoutais Malraux, j'étais sourd à Moscou pour ne pas désespérer Barcelone. D'un côté les procès, de l'autre la guerre vive. Les procès. Je lisais ce que Paul Nizan et Aragon en disaient, ce qu'il fallait en penser. Je pensais comme eux, j'étais un bon petit soldat.
Loin de tout. En tout cas, loin de penser qu'à Barcelone se tenaient aussi des procès sommaires. Contre le Poum, contre les Trotskistes.
Ne vous méprenez pas trop. Je n'étais pas si sot, personne ne l'était. Tout le monde savait que les stalinistes ne se privaient pas de régler leurs comptes au front et à l'arrière. Et votre ami Katz, lui, il faisait quoi ?
Il écrit très peu sur la guerre qui approche. Je le sens mal à l'aise.
Par exemple ?
Exemple ? Voilà. La revue, les tracts, le journal, les circulaires, les motions, les thèses, tout ce que nous fabriquons, c'est indispensable. Mais ça ne fera barrage à rien. De quoi étiez-vous au courant ?
On savait tout. Ce qu'on ne savait pas, on le soupçonnait, rien qu'au silence ou aux insultes qui s'opposaient à nos questions les plus naïves. Le carnet de votre ami est plus précieux que vous ne le pensez, même s'il n'apprend rien. Aujourd'hui, les sociétés totalitaires implosent et les prétendues démocraties triomphent à bon compte, non sans laisser paraître une certaine anxiété. Les vérités cachées ne vont pas tarder à devenir officielles, sans aucune conséquence sur le cours des choses. L'héroïsme des opposants d'hier sera salué pour mieux être oublié. L'histoire n'est pas juste, elle n'a pas de morale. Alfred Katz et ses camarades s'opposaient à la barbarie avec courage. Et alors ? Ils n'ont plus de place dans le fracas du monde d'aujourd'hui. Ils n'ont pas d'héritier.
À l'hôtel Rugy-le-Cœur, le réceptionniste est le nez dans son chef-d'œuvre. La porte de la chambre 13 n'est pas fermée. Solveig est allongée en travers du lit, sur le ventre, nue, endormie. Délicatement, je la caresse. Son corps ondule sous mes mains. Nous faisons l'amour, sans bruit, discrètement, dans le sommeil de Solveig. Je quitte la chambre et m'installe au bar de l'hôtel.
S'il vous plaît, une vodka.
Katz n'en finit pas de pester contre la routine de son travail avec Camille. La machine à écrire défectueuse, les carbones trop usés, les courriers en retard, l'obsession des règles de sécurité. Et il y a le mariage. Mila n'a pas parlé à la légère. Elle s'occupe de tout. Démarches, papiers, régularisations diverses. Un point de discorde porte sur la nature de la cérémonie. Katz veut un pacte sobre, Mila une grande fête. Un autre concerne le foyer conjugal. Chez Mila ou chez Katz ?
Où en est notre camarade Katz ?
Tu veux boire quelque chose ?
Solveig est démaquillée, les paupières encore un peu bouffies. Sans conviction ni manière, elle tente de mettre un peu d'ordre dans sa chevelure, ce qui consiste à l'ébouriffer un peu plus. Je lui raconte les affaires courantes de Camille aux préparatifs du mariage. Laurent pousse la porte du hall, tout agité. Il est ruisselant de pluie, mèche collée sur le front, mouillé et ridicule. Il ne demande pas la permission de s'asseoir.
Tiens, tiens. Il serait du dernier mauvais goût de se demander ce qui pousse des gens comme vous, adultes, célibataires, locataires d'appartements confortables, à abriter leurs amours dans un hôtel de deuxième catégorie.
Que faites-vous du plaisir des voyages en ville ?
Du charme des chambres anonymes.
Certes, certes. Pour d'autres, c'est le cuir, les partouzes. Tout cela me dépasse. Je suis un incurable petit bourgeois.
Non, ce qui est petit bourgeois, c'est justement le cuir. Les partouzes, les allées du bois. Toutes ces petites mises en chaleur.
C'est la fin des idéologies. L'avènement d'un large consensus. Je crois que j'en ai assez d'être pris pour un con. Enfin, je ne suis pas venu pour ça. Regardez Blainville. Pièce à conviction.
Agence Prado.
Une honorable boutique de flics privés, bien connue de nos services.
Rapport adressé à Madame Marie-Joséphine Katz.
La veuve de Katz. C'est un échantillon que vous avez entre les mains. Il y en a une foultitude d'autres.
Comment ça ?
Elle faisait donc surveiller Alex par un sbire ?
Allez-y, lisez.
Journée du 3 février 1985. Le sujet a rejoint une demoiselle que nous avons identifiée comme étant...
Abigail Stern.
Au café Le Petit Cluny à 18h. Ils sont ensuite allés dîner au restaurant brasserie Le Balzar jusqu'à 21h50. Mademoiselle Abigail Stern ne portait pas de soutien-gorge et semblait...
Très éprise.
Le couple s'est ensuite rendu à l'hôtel de la rue Gillecoeur, même hôtel que dans les rapports précédents.
Pourquoi cette chambre 13 ? La même que la vôtre ? Pourquoi ces coïncidences gigognent, toute cette crasse analogique dans laquelle vous vous complaisez ?
Qui vous a donné ce rapport ?
La veuve, pardi.
Quel intérêt y a-t-il à revenir sur ces modestes frasques ?
Pourquoi modeste ? Alex menait une double vie, pourquoi pas triple, quadruple ? Les rapports de l'agence laissent planer le doute. D'un côté, la rigueur, le respect scrupuleux d'habitude, de manie, de précaution. Voilà pour la vie sentimentale et professionnelle. De l'autre, des extravagances, des flâneries, de curieuses pratiques de rôdeur. Sans but apparent.
Je ne comprends pas.
Plusieurs fois. Comme obéissant à une impulsion subite, il se rend, par exemple, Square Saint-Jacques. Ou Passage du Bail. Ou Librairie Faible. Il n'y a pas de rendez-vous vérifiable. Le privé a l'impression qu'Alex cherche à brouiller les pistes et qu'il est encore plus dissimulateur qu'il n'y paraît. Moi, je remarque que vous êtes exactement dans les traces d'Alex. Aussi fourbe que lui.
Je n'ai qu'une seule raison pour ne pas faire état du carnet de Katz à Laurent. Elle est excellente. Cette histoire ne le regarde pas.
J'enregistre, je stocke, je recoupe, j'établis des liens. Je suis paranoïaque par méthode, pas par conviction maladive. Depuis le début, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans cette affaire. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que des liens de causalité encore obscurs. On ne vous a pas pris en otage pour rien. Et je finirai par connaître le secret de la chambre 13.
Vous voulez boire quelque chose ?
Non, merci, je m'en vais. Un gentil mec, ce réceptionniste. Comme écrivain, je ne suis pas juge. Et comme indique, il n'y a rien à redire.
Le secret de la chambre 13. Bon courage. Où on en est dans le carnet ?
Puisqu'elle a cédé sur l'appartement, Mila exige d'organiser à sa convenance la cérémonie du mariage.
Et Katz laisse faire ?
Il ne choisit même pas la date. Le choix des témoins a également fait l'objet de longues discussions. Ce sera Félix pour Katz et Manet pour Mila.
Comment vont-ils s'habiller ?
C'est un copain d'atelier qui a prêté son beau complet de cérémonie à Katz. Il a même accepté qu'on y fasse des retouches, ce qui nous permet d'apprendre que notre héros a de très longues jambes et qu'il est un peu étroit des épaules.
Et Mila ?
Robe blanche, très printanière, avec quantité de broderies, de fanfreluches. Ses amies couturières ont fait le travail. Une autre modiste s'est chargée du chapeau.
Quel genre, le chapeau ?
Assez ouvragé, avec des fausses cerises très rouges, du meilleur effet.
Et où se passera le mariage ?
Mila a prévu un pique-nique en bord de Marne.
Le mariage est une institution bourgeoise. Oui, mais c'est aussi une tradition populaire. Oh.
Que nous conserverons après la prise du pouvoir.
Trinquons aux jeunes mariés.
Oui, oui.
Enfin, Mila.
Allez, santé, Katz. Oh là là, quelle tête tu tires. Tu vas pas nous gâcher ton mariage tout de même.
Et pourtant, tu aimes Mila autant que moi.
Tous les trois, on a fait ce qu'on a pu. Y a rien à regretter. Elle t'a choisi. À toi d'être heureux.
Mais c'est cette fête, cette fausse insouciance. Comme dans les films ou dans les romans, avant le drame.
La guerre ?
La guerre, les querelles. Entre toi et moi, entre nous et tous les autres.
Nous continuerons à nous engueuler, pas d'inquiétude. Tu peux compter sur ma loyauté. Je pense que je peux compter sur la tienne. Demain est un autre jour.
Man, je veux une photo. Je veux une photo du déjeuner sur l'herbe, comme sur cette peinture si belle. De qui déjà?
De Manet, les deux amis et la fille nue.
Oui, c'est ça. Les garçons, venez. Mettez-vous là autour de moi.
Oui. Attendez un instant, je cale bien mon trépied.
J'enlève ma robe, hein, pour faire plus vrai.
Regardez ce corps cosmique.
Oui, et ta peau prendra très bien la lumière du jour.
Tout le monde nous regarde, Mila.
Oh, petite Katz, tu veux me garder pour toi, hein? Juste pour toi. Mais tu auras tout le temps après, mon chéri.
C'est parfait. La lumière est parfaite. Ne bougez plus.
Elle va mourir. Tout ce récit est fait pour qu'on devine que ce sera dans les pires conditions.
C'était « Nous cheminons entourés de fantômes au front troué » de Jean-François Villard. Adaptation radiophonique, Maya Bocquet. Deuxième épisode. Avec Antoine Mathieu, Bruno Pavio, Lenka Luptakova, Christophe Brault, François Château, Martine Chambachère, Florent Houlier, Céline Millia, Grégoire Lagrange, Vincent Nemeth, Nicolas Santi, David Gouillet, Robert Attizi, Ismaël Ruggiero, Grégoire Isvarine, Mathieu Rochevarger. Et les voix de Sébastien Faglin, Didier Mérigou, Pascaline Baumard, Florence Valero, Pierre-Jean Mali, Christine Armanger, Myrène Astré. Bruitage, Céline Bernard et Patrick Martinache. Musique originale, Dominique Massa. Saxophone et clarinette basse, Virgile Lefebvre. Alto, Mathieu Beauchat. Violon, Thibaut Maudry. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Bastien Varigaud. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Nous cheminons entourés de fantômes au front troué de Jean-François Villard est publié aux éditions du Seuil.